Goldman Sachs. C'était Céline Pentex, investir pour RFI.
On ne verra plus Éric Zemmour sur CNews, en tout cas pas comme chroniqueur. La chaîne d'information a retiré en effet son polémiste vedette de l'antenne suite à la décision du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de décompter son temps de parole. Pas encore candidat déclaré à la présidentielle, Éric Zemmour pourrait rebattre les cartes à l'extrême droite où Marine Le Pen vient de lancer sa campagne. Ainsi s'achève le journal. Merci à vous d'avoir écouté. Il est pratiquement 18h10 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Radio G 101.5 FM. h 10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Et oui, c'est avec un immense plaisir et de l'émotion plein les yeux que j'annonce la saison de Topette, ouverte pour 2021-2022. La nouvelle quotidienne de Radio G, le magazine des agitations locales et culturelles sur le territoire en juin, tous les soirs, du lundi au jeudi, de 18h10 à 19h sur le 101.5 FM. Je pense que tout est dit, Bruno. Excuse-moi, j'ai pas ouvert ton micro, vas-y.
Bah voilà, ah bah ça commence.
Ça commence, bravo.
Ah bah bravo. Non mais je suis super fier d'être le parrain de ton émission.
Oh là, bah t'en dis beaucoup trop, attends.
Ah bon, d'accord, ok.
Alors avant de démarrer, je tiens à honorer les deux animatrices qui m'ont précédé sur ce créneau. Cécile, pendant près de 10 ans, que j'ai aperçue une fois, et Annélie, pendant 4 ans, donc bravo à elle. Parce que Topette, c'est un nouveau nom pour un nouvel animateur, mais je ne pars pas de zéro, c'est une émission qui part sur des bases solides et je tenterai de leur rendre honneur tout au long de la saison.
Oh,
merci
à
elle.
Beau, tu parles bien.
Ouais, je l'ai écrit juste avant.
Ah d'accord, ok.
C'est ça que tu m'as vu écrire tout à l'heure. Allez, Topette commence donc la saison avec un nouveau partenariat, celui d'Anjou Tourisme. Chaque lundi, on entendra des acteurs du tourisme en Anjou et on découvrira aussi des sites incroyables. C'est l'Anjou Bleu qui ouvre la marche avec Réjeanne Picot et Céline Idier. C'est bien ça,
oui.
Le nom de famille ?
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à Radio G. C'est la première fois, je crois, pour vous ?
Oui.
Pas la dernière ?
Non,
on verra tout ça tout à l'heure. Vous êtes accompagné par Jean-Christophe Garnier, propriétaire d'une magnifique demeure dans le Segréen. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette demeure ?
C'est le château du Paty.
Ah, mais on n'en dit pas plus pour le moment parce que vous allez voir que ce château, cette demeure, a une histoire incroyable. Et parce qu'on ne change pas, une équipe qui gagne. José, votre nutritionniste préféré, a conservé sa place de titulaire. Bonjour José, ça va ?
Bonjour Père Benoît, ça va ?
Oui, très bien. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure en fin d'émission ?
Eh bien, ce soir, j'avais parlé d'un sujet qui va intéresser tous les gens qui s'intéressent un peu à leur alimentation en début de saison, en janvier, en septembre, mais je ne vous en dis pas plus, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, donc ce sera aux alentours de 18h50 à peu près. Un homme se tient dans un coin, sagement, dans le studio. Alors, à la base, ça devait être Bruno, mais il y a vraiment un homme qui se tient sagement dans le studio.
Pas loin, ouais.
C'est notre photographe attitré qui va nous Instagrammer tout au long de la soirée. Si vous êtes d'accord, Bruno, tu l'as dit, tu es là pour être le parrain de l'émission. Pourquoi ?
Hein ? Pourquoi ?
Il sait pas.
Bah si, non, mais je suis super fier. Voilà, c'est l'épine dorsale d'une radio, une quotidienne. C'est le rendez-vous qu'on a tous les jours. Voilà, la voix que, hop, tous les jours, on l'entend comme une Madeleine de Proust qui nous dit, tiens, il est 18h, on a fini notre journée, c'est cool. Et puis on apprend un petit peu ce qu'on pourrait faire le week-end prochain ou on apprend des choses comme ça, tranquille, dans sa voiture. Parce que c'est l'heure où on est dans les embouteillages. Donc,
Alors non, n'en fais pas trop parce qu'après, je vais te complimenter aussi.
Non, faut pas. Tout à l'heure, il a dit Père Benoît au lieu de Pierre Benoît, mais ça te va bien, hein, Père Benoît. Père Benoît, c'est bien.
Non, bah, je me suis converti récemment, donc. Allez, Topette, c'est maintenant et c'est la première ce soir.
Radio G. 101.5 FM.
Et puisque nous allons en Anjou Bleu, je vous propose d'écouter Camille et d'aller explorer les profondeurs de la mine bleue. Si Camille veut bien partir. Tac.
Avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la mine bleue, à Noyant-la-Gravoyère. Alors, prêt pour une descente à 126 mètres sous terre, à la découverte du métier de mineur ? C'est parti. Après avoir enfilé nos charlottes et casqué nos têtes, nous voilà enfermés dans l'ascenseur menant aux entrailles de la Terre. Bon, j'exagère un chouïa. Ça va ? Pas trop anxieux ? La descente est plutôt rapide, ne t'inquiète pas. Arrivé sous terre, il fait frais. À la réservation, on nous a conseillé d'emmener un pull. C'est vrai, il fait 13 degrés. Après avoir encore descendu quelques marches, la visite commence. Nous devenons de véritables mineurs. Nous déambulons dans des couloirs sombres et bas de plafond, en suivant les rails, puis nous entrons dans différentes chambres d'extraction, toutes plus vastes les unes que les autres. Les explications sont complètes, ponctuées d'anecdotes d'époque. Au milieu d'un couloir, la guide nous arrête. « Maintenant, vous allez voir ce que les mineurs voyaient lors de leur labeur », nous dit-elle. Puis, elle éteint les lumières. Pendant quelques secondes, nous sommes plongés dans le noir. Puis, nos yeux s'habituent et on entreaperçoit de nouveau le visage de nos accompagnateurs. La lumière revient et nous finissons cette visite. Un tour d'ascenseur dans l'autre sens et nous revoilà à la surface. Avant de nous quitter, la guide nous propose une démonstration de fente d'ardoise. Elle manie ce procédé très bien. On a presque l'impression que nous pourrions tous y arriver. Bon, il est temps de rentrer. Pas encore rassasié ? Bon, très bien. Plus loin dans la campagne segréenne se trouve un parcours d'interprétation sur les pas des mineurs de fer. En extérieur, autour du chevalement en fer, tu pourras en apprendre encore plus sur le quotidien des mineurs. Mais hé, n'essaie pas de toucher les moutons sur le site. Je n'y suis jamais arrivée. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous.
Très intéressant. Merci Camille, merci pour cette petite balade, cette exploration souterraine. Vous pouvez la suivre sur Instagram à @l'Anjou avec Camille. On va remonter à la surface et voir d'autres choses de l'Anjou bleu maintenant avec vous, mesdames et messieurs. Alors, Réjeanne Picot, vous êtes chargée de la promotion à l'Office du tourisme de l'Anjou bleu, et Céline Idier, vous êtes chargée de projet patrimoine pour ce même office, je ne me trompe pas pour l'instant.
C'est bon.
Et vous êtes également, Céline, guide historique au château de Poincé, et on en reparlera dans quelques instants. Réjeanne et Céline, l'Anjou bleu, c'est presque un pléonasme finalement. Pour qui connaît le secteur, hein, les mines, tout ça, les ardoises sur les toits. Mais pour un touriste de passage dans la région, comment lui décririez-vous le territoire ? Ce beau territoire qu'est l'Anjou bleu. Réjeanne.
Alors effectivement, l'Anjou bleu, bien sûr, tire son nom du bleu des ardoises et des trois rivières navigables qui traversent notre destination, puisque nous avons la chance d'avoir trois rivières, enfin un linéaire, qui est navigable sur trois rivières, donc la Mayenne, la Sarthe et l'Oudon. Nous avons également, comme le disait Camille, un monde souterrain qui est prégnant dans la dans le paysage. C'est vraiment l'histoire de notre secteur. On voit des sculptures qu'on appelle des sculptures atypiques, qui sont des chevalements, des sites d'extraction d'ardoise, pardon. Et on a aussi des sites un petit peu atypiques. Par exemple, on peut, je ne sais pas si les gens le savent, mais on peut plonger dans une carrière de granit.
Oui, à Bécon.
À Bécon-les-Granites. Mmh. Voilà, donc on a une spécificité, une vraie personnalité dans le monde souterrain, mais pas que. On a aussi des châteaux, on a ce qu'on appelle de la micro-aventure. La micro-aventure, c'est vraiment se dépayser à proximité de chez soi. On a possibilité pour chacun de trouver ce qui lui convient. On est sur un territoire où l'humain est très important et où les gens sont très sympas.
Oui, il paraît, ouais. Tous ceux que j'ai rencontrés jusque-là ont l'air plutôt sympathiques.
Ouais. On est plutôt un territoire accueillant, avec un art de vivre, une gastronomie, Voilà, et puis bien sûr, plein d'activités autour de la nature, des sites exceptionnels. Alors, je ne sais pas, Céline, tu peux peut-être compléter, tu veux compléter peut-être ?
Non, les plus grandes lignes sont dites. Je pensais justement à tout ce qui est randonnée, pédestre, cycliste, à cheval aussi.
Ouais.
Avec
ceux qui savent.
Avec plusieurs voies vertes sur notre territoire.
Ça tombe bien, c'est bientôt l'été.
Hein, oui, bah oui.
On commence juste à faire un petit peu l'été, mais, hein, on est en printemps.
Mais le vélo, c'est plus intéressant.
Ça tombe très bien, moi je dis.
On peut en faire toute l'année, ah, évidemment. Oui, et puis, on a aussi un parc départemental pour ce qui est randonnée, enfin balade en tout cas, familiale. On a aussi le chemin de halage qui est aussi, enfin qui passe par un itinéraire structurant qui s'appelle la Vélo Francette.
Ah oui.
Qui est un itinéraire.
C'est comme une Loire à vélo, en fait.
Voilà, c'est voilà, et qui rejoint d'ailleurs la Loire à vélo. On peut rejoindre la Loire à vélo. Donc, par exemple, on peut venir facilement 3 jours faire du vélo sur en Anjou bleu, et puis découvrir, s'arrêter et découvrir soit des sites de visite, mais aussi faire des activités qui sont axées autour de la nature, des rivières aussi. On peut faire des balades en bateau. Enfin voilà.
C'est quand même très bucolique, très beaucoup d'un passé industriel aussi, puisque les carrières de granit, du coup, c'était pour les besoins industriels à l'époque.
Voilà.
Il y a aussi une haute teneur historique quand même dans cette région, puisqu'on est sur les anciennes marche de Bretagne. Je vous regarde, Céline, parce que je pense notamment au château de Poncé, qui quand même est un ancien château fort, aujourd'hui en ruine, et qui pourtant témoigne d'un ancien passé haut en couleur.
Oui, en effet, Poncé est vraiment un château fort important sur les marges de Bretagne. Donc on est à la frontière entre la Bretagne et le Royaume de France, enfin le futur Royaume de France, ça dépend à quelle période on se situe. Et le château fort de Poncé, c'est l'une des forteresses les plus importantes pour le Maine-et-Loire, qui date du Moyen-Âge. Donc aujourd'hui, en effet, c'est un château qui est en partie en ruine, mais il y a des surprises, il y a des choses qu'on peut voir quand même durant la visite. Et c'est uniquement en visite guidée, parce que c'est plus facile pour comprendre ce qui reste des murs.
Oui, parce qu'en fait, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes du coup guide également au château de Poncé, en fait. Vous animez des visites.
C'est ça.
Alors,
allez-y.
Bah, j'y vais. Qu'est-ce qu'on y découvre ? Parce que moi, je passe devant le château de Poncé, comme ça. Il est en ruine, je me dis, bah, y a pas grand-chose à voir.
Alors, c'est vrai qu'en première approche, alors ça dépend du quel côté on arrive. Hein. Si on arrive par le côté bas, depuis la route de Châteaubriant, on a une muraille qui est encore très importante et qui est en parfait état, ou quasiment en parfait état. Donc on a l'impression d'une forteresse gigantesque. Puis quand on passe de l'autre côté, il est vrai qu'on se dit, ah, finalement, il reste qu'un mur et plus grand-chose. Alors, c'est pas complètement vrai, puisqu'en fait, on peut, pendant la visite, accéder aux tours. Et on a l'avantage d'avoir des tours de différentes époques. Donc on peut voir l'évolution entre le milieu du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, ça dure quand même 1000 ans, donc il y a beaucoup de changements. Donc ça, on peut voir à Poncé. Et puis, on a une petite salle un peu intéressante, qui est quand même une salle souterraine, qui fait 80 mètres carrés, qui est un peu le clou de la visite.
Ah oui, c'est plus grand que mon appartement. Donc.
Oui, c'est pareil.
Il y a moins de fenêtres.
Et il n'y a pas beaucoup de fenêtres.
C'est ça, ouais. Et puis il fait peut-être un peu plus frais aussi en été. Hein.
Oui.
Il y a d'autres sites comme ça en Anjou bleu qui sont marquants historiquement, comme ça, parce qu'on parle de tourisme et d'histoire, hein, souvent le tourisme est rattaché à l'histoire. Je pense à un petit village par exemple à côté qui s'appelle Châtelet. Oui, vous acquiescez. Il y a quand bien même quelque sûr, chose oui. d'assez singulier là-bas qui a été découvert il y a quelques années maintenant. Céline.
Alors, oui, Châtelet, en fait, c'est une ancienne ville médiévale. Il y a des restes de châteaux, il y a des restes de portes. Il y a aussi, près de l'église, une ancienne nécropole mérovingienne qui a été mise à jour.
Alors, mérovingienne, mérovingienne, ça veut dire quelle époque, ça ?
Alors, mérovingienne, on est avant Charlemagne, tout début du Moyen-Âge.
Juste avant l'école. Tu vois,
c'était.
Pareil, tu vois bien.
Bruno, tu as connu, tu étais tout jeune à l'époque.
Oui, j'étais déjà là.
Tu étais déjà là, c'est ça.
C'est ça.
Donc, nécropole qui a été mise au jour, et du coup, c'est une grosse nécropole avec beaucoup, enfin, de nombreux sarcophages.
Ouais. Un nécropole, en gros, c'est un ancien cimetière, en fait.
Oui. C'est ça.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'ARCS, il me semble, l'association de recherche Châtelet et Segréen, quelque chose comme ça.
C'est ça.
On leur dit bonjour.
Exactement.
Ils ont demandé, en fait, ils ont fait des peintures, c'est ce qu'ils appellent un musée à ciel ouvert.
Oui.
C'est des peintures qui montrent, en fait, aujourd'hui, on peut aller sur, autour de l'église et voir ces lignes marcher.
C'est ça. En fait, y a les emplacements des sarcophages ont été représentés par des lignes de peinture. Et donc, quand on approche de l'église, on peut voir comment étaient disposés les sarcophages. Et de mémoire, il y a deux couleurs, blanc et bleu. Et parce qu'il y a deux époques différentes, légèrement différentes, et deux campagnes de fouilles différentes.
Ouais, bleu, ça doit être l'ardoise, et blanc, c'est le...
Et il y a ça aussi,
calcaire,
ouais.
Peut-être.
Le calcaire, tout à fait.
Et voilà. on retrouve un sarcophage dans le musée.
Aussi. Dans le musée archéologique de la ville, ouais.
Voilà, qu'on peut découvrir.
Je savais pas qu'il y avait autant de bleus dans la région, quand même. Et les schtroumpfs, alors, ils sont où
Peut-être ils sont du coin, on sait
peut-être,
pas.
Peut-être, hein. On sait jamais.
Sans doute.
Voilà, Bruno, le blagueur de la soirée.
Ouais, ça va, c'est bon.
Mais c'est vrai que nous, on voit la vie en bleu.
Oui,
en
c'est vrai.
Allez, Josée, rapidement, est-ce que tu peux me dire si tu connaissais le Segréen T'es peut-être de là-bas, toi
Non, je ne suis pas de là-bas, mais je connais Segré, la salle Bertrand Roigny. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dans cette salle, en tant que sportif.
Allez.
Je
vous
pas.
Ai eu, là.
Ah, ouais, ouais, c'est...
ah bah voilà, je connais Segré.
Il s'y connaît mieux que les personnes qui s'y connaissent, en fait. D'accord. Non, mais en tout cas, c'est vrai que l'Anjou Bleu, c'est un territoire un peu insoupçonné, quand on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Et pourtant, notamment ce week-end, à l'occasion des Journées du Patrimoine, puisqu'on va parler, alors c'est un peu plus récent dans l'histoire, mais du château du Paty, dans quelques instants, avec Jean-Christophe. C'est quand les Journées du Patrimoine, précisément?
Les Journées du Patrimoine, c'est ce week-end. C'est le samedi 18 et le dimanche 19.
Et vous allez organiser un petit événement. On en reparle juste après la pause musicale. C'est In a Manner of Speaking.
Ah bah ça commence bien.
La nouvelle vague.
Alors, si des chansons françaises dans ton émission, c'est un conseil.
Alors ça a été choisi par Céline, donc on va...
D'accord, merci
par
Céline.
Jeanne,
on écoute.
Tell me
C'était donc la nouvelle vague, In a Manner of Speaking, sur Radio G 101.5 FM, dans la nouvelle quotidienne Topette. Tu as aimé, José, cette musique choisie par Réjeanne?
Ah oui, parfait, c'était paisible, impeccable. Non.
Très bien, merci pour ce vocabulaire très riche. Allez, on va passer à la suite du coup. Réjeanne, vous vouliez parler éventuellement des journées du patrimoine sur, dans le Segréen? Qui ont lieu du coup ce week-end.
Oui, donc effectivement, on a...
Vous avez un beau programme en tout cas, un petit livret.
On a concocté un petit programme avec pratiquement 100 sites qui ouvrent leurs portes pour les journées du patrimoine. Voilà, donc on vous invite à découvrir l'ensemble de la programmation sur notre site internet. Donc www.tourisme-anjoubleu.com.
Voilà, c'est important de le préciser.
avec des découvertes bien sûr de sites, mais aussi des expositions, enfin des un petit peu de d'événementiel, des balades musicales, enfin de tout pour tout le monde. Donc vraiment une chouette programmation.
Très bien. Et vous avez pas cité, mais il y a le Paty aussi, le château du Paty à Maran, Jean-Christophe, qui fait quelque chose ce week-end.
Exactement. Maran, c'est à quelques kilomètres de Segré. Ouais. Et je suis le propriétaire, l'heureux propriétaire du château du Paty. Le Paty, c'est la propriété familiale historique de Hervé Bazin.
Oui. On va en parler dans quelques instants. Je voulais faire un petit peu attendre José, parce que José, il est très friand d'histoire. Juste pour revenir sur ces 18 et 19 septembre, vous allez faire quel type d'événement au Paty?
Alors, il y aura des visites guidées exceptionnellement le matin à 10h, et visites libres l'après-midi. Et puis, l'historien local de Segré, Jean Luard, dédicacera son nouvel ouvrage qui est consacré justement au château du Paty.
Voilà, et on y vient gentiment, mais sûrement. Pourquoi a-t-il pris le temps d'écrire un livre sur le Paty? Parce que le Paty a cette particularité.
Le Paty, c'est la véritable demeure de Vipère au Poing. Vipère au Poing, le célèbre roman d'Hervé Bazin. Hervé Bazin a grandi au château du Paty. C'est là qu'il situe l'action de son fameux roman. Donc, en visitant le château, on revit l'ambiance du roman et on parcourt une vingtaine de pièces dans le château, depuis les salons bourgeois du rez-de-chaussée jusqu'aux chambres mansardées et miséreuses des enfants à l'étage.
À l'étage. Tu connais Vipère au Poing, José?
Oui, je suis pas si jeune non plus.
Tu l'as étudié à l'école, t'as vu le film?
Oui, le film, oui. Mais c'est intéressant de savoir ça. On n'était pas tous au courant.
Ben non, parce qu'on est souvent au courant qu'Hervé Bazin est un auteur du coin, était un auteur angevin. On devine qu'il a vécu dans le Segréen, mais on est très loin d'imaginer qu'en fait, la Belle Angerie, ça s'appelle comme ça dans Vipère au Poing, ben c'est une vraie demeure, c'est la vraie demeure dans laquelle il a vécu et qui est au Amaran, du coup, le château du Paty.
La Belle Angerie, dans la réalité, c'est effectivement le château du Paty et les visiteurs donc peuvent ressentir l'ombre de Folcoche.
La vraie Folcoche.
La vraie Folcoche qui a vécu ici jusqu'en 1960. Elle a passé quasiment toute sa vie de femme mariée au Paty.
Alors du coup, cette histoire pour vous, elle est assez récente puisque vous avez acquis le château il y a 3 ans, il me semble.
J'ai racheté le château il y a 3 ans et demi même.
Et demi. Non.
Je ne suis pas de la famille d'Hervé Bazin et c'est un hasard, c'est une petite annonce sur Internet, sur un site de petites annonces bien connu. Et moi, c'était le patrimoine qui m'intéressait. Je ne suis pas un littéraire, mais je cherchais un petit château à histoire. Et donc dans ce château, non seulement Hervé Bazin, il y a habité, mais en plus, il y a situé l'action de son roman.
C'est une double
donc
histoire.
Donc, il y avait la petite histoire derrière la grande histoire.
D'accord. Réjeanne et Céline, vous avez vu ça de loin, peut-être l'acquisition du Paty, parce qu'avant c'était un petit peu en ruine quand même, enfin ça allait de mal en pis. Comment vous avez accueilli cette nouvelle d'un nouveau propriétaire du château du Paty au début?
Bah, c'était une bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle. Et puis, c'est une très belle visite, surtout. Je voudrais féliciter Jean-Christophe pour cette belle mise en valeur de l'histoire de, bah, effectivement, d'Hervé Bazin. Tout est très très bien fait. C'est un très beau musée qui nous plonge complètement dans l'histoire de Vipère au Point qu'on a, en tout cas pour ma part, que j'ai étudié quand j'étais au collège ou au lycée, je ne sais plus.
Vous étiez au collège avec José, non,
je sais pas, sans doute, des... sans doute.
Oui, c'est ça, ouais, à peu près.
En tout cas, c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir, d'avoir un tel musée sur notre territoire, sur notre belle destination, et ça complète ce qu'il y a déjà à voir.
En tout cas, ça fait plaisir à Jean-Christophe, hein, ce que vous dites, il est content, c'est mission réussie pour vous finalement.
Oui, moi je suis ravi d'être largement soutenu par Réjeanne et par Céline, qui sont énergiques et efficaces, puisque le musée vient d'ouvrir depuis 4 mois au public, il est ouvert les week-ends uniquement, et c'est compliqué quand on lance un musée dans un petit village de campagne, quand on n'est pas soutenu, effectivement, notamment par l'office de tourisme local. Mais là, je suis ravi de leur énergie et de leur enthousiasme pour le château du Paty.
D'autant que vous avez connu plusieurs difficultés depuis 3 ans et demi, parce que déjà, l'état du bâtiment, il y a eu le coronavirus également, qui a peut-être entravé certains projets. Comment ça s'est passé entre l'acquisition et le aujourd'hui maintenant ouvert?
Alors en fait, moi j'ai acheté un château en très mauvais état, vide et inoccupé depuis 6 ans. Donc le parc était une vraie forêt vierge, il prenait l'eau de partout, ça sentait de moisi, c'était vraiment très très mauvais état. Hervé Bazin l'a vendu en 1961, depuis il y a eu 3 propriétaires successifs, et il a fallu vraiment tout refaire. Donc le château est maintenant entièrement meublé et décoré, comme à l'époque de Vipère au Point. Il y a en fin de parcours une salle contemporaine qui présente l'ensemble de l'œuvre écrite de Hervé Bazin.
Et comment avez-vous procédé pour retrouver cette ambiance précise? Vous avez relu le roman Vipère au Point plusieurs fois, vous avez regardé les films peut-être?
Vipère au Point, c'est la base, effectivement. Les films, eh bien, ce sont des adaptations, mais bien sûr qu'il y a le film avec Alice Sapritch, le téléfilm avec Alice Sapritch et le film de cinéma avec Catherine Fraud, qui repasse régulièrement à la télévision. Et puis, il y a de nombreuses biographies d'Hervé Bazin. Il y a l'oncle d'Hervé Bazin qui a écrit ses mémoires, Monseigneur Michel Hervé Bazin, donc ça a été une base également. Je suis également en relation avec une partie de la famille, les descendants de René Bazin. René Bazin, c'était le prestigieux ancêtre, c'était le grand-oncle d'Hervé Bazin, il était académicien français. Et les descendants de René Bazin sont très organisés en association. Ils ont pu me fournir beaucoup de documents, notamment les portraits de famille que l'on voit dans le grand salon. Ce sont des reproductions fournies par des descendants de René Bazin.
Donc c'est une ambiance de qualité, on est vraiment en plein dedans. Le livre avec Jean Luard, que je connais et que je salue, j'en profite. À quel moment il est intervenu? C'était dès le départ? C'était pourquoi faire un livre finalement?
C'est en cours de route parce que Jean Luard a écrit un livre concernant un autre château célèbre dans le Segréen, c'est le château du comte de Falloux. Et j'étais en contact avec lui au moment où il a écrit ce livre, c'était il y a plus de 2 ans, et il m'a proposé d'écrire un livre sur le château du Paty. Donc il a travaillé pendant 2 ans sur ce livre. Lui a été principalement aux archives, il est historien, il a l'habitude de consulter et de chercher dans les archives au bon endroit. Moi, j'avais beaucoup de notes de mon côté, j'avais toutes les biographies, donc je lui ai donné tous mes éléments. Lui, il en a apporté d'autres et il a pu écrire ce livre qui vient juste de paraître et qu'il va dédicacer ce week-end à l'occasion des journée du patrimoine.
Très bien, ben moi je vais peut-être passer y faire un tour, hein. Du coup, ça a l'air intéressant.
C'est vrai que ça donne envie. Hein.
Ça donne envie. Hein. Camille qui nous a rejoint, tiens vas-y prends un micro Camille.
Oui, bonjour.
Bonjour, donc Camille c'est la personne qui a réalisé le podcast qu'on a entendu tout à l'heure.
Exactement.
Bravo Camille.
Merci.
Tu connaissais du coup le Château du Paty
Oui, parce que donc pour la petite subtilité, je suis en remplacement en congé maternité à l'office de tourisme de l'Anjou-Bleu, donc avec les filles en ce moment. Et qu'on avait eu le plaisir de le visiter il y a quelques temps de ça, entre nous. Donc j'ai eu la chance aussi de faire un bout de la visite guidée et de découvrir ce bel endroit qui est le Château du Paty et que j'avais vraiment adoré. C'est vraiment chouette.
C'est toi qui postes du coup sur Instagram, qui met des photos des fois du Château du Paty
Sur mon compte Instagram personnel.
Oui, sur ton compte
oui.
Insta, oui.
Oui, c'est ça. Sur mon compte Instagram personnel, donc Vivez l'Anjou avec Camille, j'aime bien partager ce que j'aime et faire découvrir aux autres région.
J'ai fait la promotion tout à l'heure, ouais. J'ai même donné l'arrobage pour te dire.
Donc du coup, oui, j'ai partagé quelques photos du Château du Paty.
Très bien.
Pour faire découvrir au plus grand nombre.
Bah c'est gentil, merci.
Toujours modeste, hein, mais c'est toujours ça.
Puisqu'on parle d'Hervé Bazin, moi je vous propose d'écouter ce qu'a fait Luc, c'est l'animateur de l'émission Entre les pages sur Radio G. Il a produit une petite série justement sur la vie d'Hervé Bazin. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, Jean-Christophe. On écoute ça.
Vous allez écouter un podcast à Radio G. Un Bazin sinon rien. Une micro-série produite par l'émission Entre les pages, épisode 1, une enfance. Hervé Bazin n'est pas né en 1948 avec la publication de Vipère au Point, non. Il est né le 17 avril 1911 dans cette bonne ville d'Angers. Et de sa naissance, il en parlait comme ça lors d'une interview en 1994. Je suis né à Angers, rue du Bellay, j'y suis resté un quart d'heure. Ma grand-mère est venue nous chercher l'un après l'autre. J'ai commencé ma vie avec une mère que j'adorais et qui était ma grand-mère. Malheureusement, ma grand-mère est morte trop tôt, sans quoi Vipère au Point n'aurait jamais existé. Son vrai nom, c'est Jean-Pierre Hervé Bazin. Le nom de famille est bien Hervé Bazin, celui d'une famille bourgeoise très connue dans le centre-ville d'Angers. Sa mère Paul, celle que l'on confond avec Folcoche, ne sait pas s'occuper des nouveau-nés. Aussi la grand-mère, Marie Bazin, va s'occuper des trois enfants. Les parents habitent rue du Bellay, en plein centre-ville, pas loin de la place du lycée. La grand-mère habite rue du Temple, tout près de la gare Saint-Lô, à moins de 2 km. Et pourtant, les trois garçons ne voient que très rarement leurs parents. Ils passent des vacances merveilleuses dans la propriété du Paty, à Maran, dans le Segréen. La Première Guerre mondiale survient. Le père, Jacques, est volontaire pour le front. Il y combat, mais tombe malade. Les autorités françaises, inquiètes pour sa santé, lui proposent en 1917 un poste à Shanghai. Et les deux parents partent en Chine, laissant leurs trois garçons sous la responsabilité de la grand-mère. En 1919, Marie Bazin, la grand-mère adorée, décède. Les parents ne vont rentrer en France qu'en 1921. Pour Paul, quitter la Chine et cette vie facile, sans aucune obligation matérielle, est un déchirement. Jean-Pierre Hervé Bazin, le futur Hervé Bazin, lui, a 10 ans. Toute la famille s'installe rue du Temple, dans la maison de la grand-mère, mais un an après, le père embarque tout son petit monde dans la propriété du Paty. Le Paty, c'est grand, 900 mètres carrés, et sans eau, sans gaz et sans électricité. Mais il faut afficher son rang dans cette campagne segréenne, et il est plus facile d'être roi à Maran que prince à Angers. Paul, la mère, n'est toujours pas capable d'avoir des sentiments maternels. La perte de la vie facile à Shanghai est pour elle un traumatisme insurmontable dont elle ne se remet pas. Fin de la première partie. Un Bazin sinon rien, une réalisation de Entre les pages. Musique, Ghislaine Valdivia au violoncelle sur l'ouverture de Cachemire de Led Zeppelin par l'Orchestra Sinfonica de Chancet.
Radio G. Eh bien voilà, c'est très intéressant, ça confirme... Enfin, les contenus sont plutôt appropriés.
Mais oui, exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est sa vie. C'est une vie vraiment romanesque, la vraie vie. Alors, dans le roman, attention, il y a, suivant les interviews, Hervé Bazin nous dit qu'il y a 70% de vrai et 30% d'inventé.
Ah. Donc, il brouille un peu les pistes.
Exactement.
Légèrement.
Y compris dans les interviews.
Est-ce qu'on peut préciser peut-être, par rapport au Château du Paty, les personnes, les auditeurs ou auditrices qui seraient intéressées pour visiter, comment elles font ?
Alors, il y a un site châteaudupaty.com et Paty s'écrit P-A-T-Y-S. Sur châteaudupaty.com, vous découvrez les horaires, les tarifs et vous avez la possibilité de réserver gratuitement, directement en ligne. La visite guidée, il faut absolument réserver pour la visite guidée. Pour les journées du patrimoine, les visites guidées sont donc exceptionnellement le samedi et le dimanche à 10h du matin. Il faut compter environ 2h pour la visite guidée. L'après-midi, c'est visite libre pour une durée d'environ 1h.
Très bien, et bah c'est noté. Moi, j'irai très certainement faire un tour. Céline, le château de Poncy, si on veut le visiter, on fait comment ?
Alors là, vous avez encore demain et mercredi pour les visites individuelles et les journées du patrimoine, donc ce week-end. Pour les journées du patrimoine, on est ouvert l'après-midi à partir de 14h30 et on a une visite toutes les 45 minutes, c'est uniquement guidé.
Très bien.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Et Réjeanne, du coup, pour le reste des événements de ce week-end et même au-delà, pour l'Anjou Bleu, on retrouve tout ça où ?
Donc sur notre site internet,
on peut le redonner.
Je le redonne.
Je voulais le réentendre à nouveau.
www.tourisme-anjoubleu.com.
Très bien. Et ben c'est noté. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. On va faire une petite un petit passage avec
c'est,
Bruno.
C'est gentil que t'aies pas dit que pour les journées du patrimoine, on pouvait me visiter. Hein. J'ai attendu que tu me la fasses, tu me l'as pas fait. Hein. C'est bon. Hein.
D'ailleurs, c'est très intéressant pour les personnes qui sont live. Il y a des chiffres romains écrits. Ça représente une date.
Ici. Oui, la date de création du
C M M. X,
je dirais pas le. Tu traduis. Vous allez voir sur
1972.
Live.
Ouais.
C'est
bah,
ça.
Bravo, Céline.
Magnifique. C'est très radiophonique ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais c'est vrai qu'on est en live sur Facebook. Pour ta première, tu es en live sur Facebook.
Très bien.
Radio G.
Et grâce à Bruno. Bruno, dont on va parler maintenant, puisque
ah
Bruno.
Non, c'était pas prévu ça. Par
bah, si. Tu es là pour ça. Bruno, tu es parrain de l'émission de Topette.
Ouais.
Pourquoi tu as fait ça?
Ah bah je l'ai dit, faut que je redis ce que j'ai dit.
Oui, mais oui, il y a des auditeurs qui sont venus entre temps.
Ah, d'accord, ok. Non, bah parce que voilà, c'est une très grande émission. C'est une émission qui est super dure à préparer. C'est une quotidienne, c'est énormément de travail tous les jours. Et voilà, bah, voilà, je suis super fier de te lancer dans cette nouvelle aventure que tu commences aujourd'hui. Et j'aurai le plaisir de t'écouter tous les soirs.
J'espère.
De 18h10 à 19h.
Très bien.
Du lundi au jeudi. J'ai bon ?
C'est
bon.
C'est bon. Alors les autres invités te regardent tous, l'air de dire, mais qui est cet homme ?
Oui.
Qui es-tu, Bruno ?
Bah, juste l'animateur de CMA, c'était mieux après, un mardi sur deux, sur Radio G. Et on revient sur les origines des choses, puisqu'on ne peut pas être sans avoir été. Donc pour comprendre mieux les choses, eh bien on essaie de grappiller un peu et de remonter, de détricoter, pour remonter à l'origine des choses, pour pouvoir mieux les comprendre et mieux comprendre comment elles vont évoluer par la suite. Donc ça peut être voilà, l'origine du stylo, on a eu la première personne qui a mangé une huître. Il fallait vraiment avoir une idée. C'est vrai qu'à première vue, il fallait... Mais même sans la coquille, tu vois une huître, tu n'as pas envie. Quoi.
Je vous propose, donc, si vous voulez, d'écouter un extrait de cette fameuse huître.
Manu.
Oui, alors, elle fascine, exalte, rebute parfois, mais ne laisse personne indifférent. On la mange vivante et nue, à peine habillée d'un trait de citron. Elle est pure et tonique, gorgée de vitamines et d'oligo-éléments. Je vous captive là ?
Ouais.
Je sens que je vais gagner. Tout un poème cette huître, mais quand même, à bien y regarder, et même si ce mollusque bivalve peut parfois métamorphoser un grain de poussière en perles précieuses, il faut en passer des caps pour voir tout ce qu'il y a de bénéfique en elle. Un peu comme les impôts, quoi. Et c'est pas Olivier qui me dira le contraire, ça rebute, ça blesse, c'est chiant, mais il faut quand même avouer que la première sensation passée, un peu désagréable, il y a plein de raisons merveilleuses à apprécier de payer des impôts.
Oui, bien sûr, oui, c'est pas sujet, oui, hein, donc.
Non, alors, revenons du bord de la mer pour nous rendre au bord de la mer. Vous l'avez ?
Ouais.
Quelques scientifiques fortement débordés se sont évertués à nous expliquer par le menu comment, un jour, un humain a décidé que ce serait peut-être bien de manger ce truc gluant enfermé dans une carapace de calcaire et de nacre.
Voilà, j'en dis, on n'en dévoile pas plus. Vous écouterez sur Podcast Plus, hein, sur radio-g.fr. On a un onglet qui s'appelle Podcast Plus et c'est CMA+.
CMA+.
Pour voilà. écouter cette histoire de l'huître.
Parce qu'en fait, à chaque émission, il y a une chronique qui est élue chronique de l'émission et qui a le droit d'avoir sa petite pastille dans CMA+. Et donc, vous avez la crème de la crème dans les podcasts plus.
Alors ça, c'est la classe. Bruno, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Les Graals également.
Ah oui, c'est vrai, oui.
On pourra peut-être en parler jeudi.
Ce sera dans Topette. Oui.
Oui, ce sera dans Topette. Alors, pour teaser un petit peu.
Alors, le Graal, en fait, on répond aux questions des auditeurs. Donc, vous nous posez des questions, ils nous posent des questions. Et quand on leur a demandé ça sur les réseaux sociaux, eh bien, ils sont un peu partis en live, les auditeurs. Donc, ils nous ont demandé c'est quoi le bonheur ? Est-ce que mon copain va revenir ? Ou pourquoi la rue La Revelière s'appelle comme ça ? Donc, il y a eu des questions sympas, intelligentes, complètement spéciales. Voilà. Et donc, on a une minute pour répondre absolument à ça. Donc, c'est très, très court. Donc, on aura des extraits dans Topette. Et c'est également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et là, du coup, on fait parler les graffitis qui sont sur les murs. Donc, c'est une animation en 3D. Et on voit des graffitis parler, entre autres des graffitis d'Angers. Donc là, il y a même Frick, un des graffeurs d'Angers. Basse Frick, ouais, qui est passé sur là. Il a dit, ah, ça faisait bizarre de voir ces graffitis parler. Donc voilà, ça s'appelle Question Graal. Et vous pouvez aller sur le site radio-g.fr et poser aussi vos questions. Éclatez-vous n'importe lesquelles. On répondra à tout sur radio-g.fr, rubrique contact.
Et voilà, et c'est parce qu'il a cette aisance incroyable orale que du coup, j'ai décidé qu'il soit qui serait mon parrain pour cette année.
Ouais, bah oui, voilà. Bon, le Becherel, c'est bon, on lui achète
c'est un
cadeau de parrainage.
Des meilleurs. Alors, José, ne rigole pas trop, puisque
c'est
à toi. Je lance ton jingle.
Cacahuète et compagnie. Alors, mais attends, je fais ça.
C'est à toi.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio G, de votre radio préférée, bien sûr. On ne vous oublie pas, hein, ceux qui sont derrière leur poste, derrière Internet. Donc derrière le poste, c'est 101.5 FM. Ou sur Internet, c'est radio-g.fr. Merci Bruno. Il y en a qui suivent. Je suis content de retrouver le studio. Alors, ça change un petit peu des coups de l'année dernière avec derrière le PC. Et puis là, je suis revenu au studio. Je suis assez content.
Mais là, t'es derrière les micros, hein, je te vois. T'es tout au loin de l'autre côté
de
la table.
Elle a changé, Nelly, hein, t'as vu ?
Oui.
En tout cas, nous aussi, on est très contents de t'entendre ici sur Topette, la désormais Topette quotidienne. Pour cette rentrée radiophonique, tu nous parles de quoi ce soir, José ?
Alors oui, revenons-en à nos moutons. Donc ce soir, pour la rentrée, c'est un petit peu la rentrée aussi pour beaucoup d'entre nous. Donc je m'adapte un petit peu en vous parlant de... Alors tout à l'heure, j'ai fait un petit...
C'est marqué sur ta feuille, donc détox.
Merci, ouais. Un petit peu le détox. Ah, le détox, pardon. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui savent un peu ce que signifie détox ? Vas-y.
Ouais, bah, comme tout à l'heure, il y avait le permutement, et là, ça doit être le détoxation ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Les autres, non ? Pas d'idée ?
Jean-Christophe ?
Non, je suis pas concerné.
Non, pas concerné.
C'est boire beaucoup pour faire pipi beaucoup.
Ouais, en gros, ouais, c'est un peu ça.
Ah ouais, tu vois.
Alors, on parle de détoxification, d'accord ? Donc, il faut un petit peu revenir dans l'histoire pour comprendre un petit peu la signification. Donc, le concept à la base de détoxifier, c'est de détoxifier l'organisme pour éliminer les toxines et le purger. Donc, pour ça, avec des techniques qui étaient utilisées à l'époque. Donc, c'était le jeûne, principalement, et aussi la monodiète. Donc le jeûne permet de vider le tube digestif de ce qu'il contient pendant un minimum de 6 heures. Il existe des jeûnes de 12, 16, 24, voire des fois 3 jours, même dans certaines civilisations, une semaine.
Ah, ils sont très jeunes.
Merci Bruno. Bon, on est bien d'accord, hein, toujours sous surveillance médicale, hein, c'est quand même assez... ça peut être dangereux. La monodiète, elle, donc, comme son nom l'indique, c'est le fait de consommer qu'un seul aliment. Donc pendant plusieurs jours. Moi, mes voisins, ils font ça pendant une semaine. Ils mangent des raisins matin, midi et soir. Voilà. Et ils sont contents.
Ouais, c'est leur toilette aussi. J'imagine. Hein, le raisin,
peu, c'est un peu le but.
Ouais, voilà, bon.
Donc il existe plusieurs détoxifications. Donc plusieurs détox. Il y a celle du foie, la détox minceur et la détox de tout ce que vous voulez sur Internet. D'accord ? Et. On va dire que pour la petite anecdote, c'est le foie fait une détoxification naturelle. C'est aussi un petit peu son rôle dans l'organisme. On va dire qu'entre nous, la détox, c'est le fait d'épurer l'organisme, de le drainer un maximum afin de repartir sur des bonnes bases. On fait ça et on repart à zéro.
Tu parles de... Oui, non, parce que là, tu parles de toxines, mais notre organisme, il en produit des toxines. Est-ce que tu peux nous en dire plus, José?
Oui, excellente question. Alors, on parle de toxines. Donc, c'est les substances créées naturellement par l'organisme de par son fonctionnement. Donc, on les appelle aussi les radicaux libres. Donc, ça peut être lié à l'activité physique, mais également à la pollution environnementale, principalement celle que l'on respire, qui agresse aussi la peau, ou la consommation riche de produits traités. On en parle beaucoup dans l'actualité. Aussi, suite à l'abus alimentaire, les gros repas, en soirée, en famille, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, avec des repas avec beaucoup d'acides gras saturés.
Je sens que les invités sont concernés, voilà. Elles sont pétées de rire, elles voilà. Se disent, voilà, ah ben, après ma dernière cuite, c'est bon, j'en ai eu des radicaux libres. Hein, ça
rappelle un peu l'été ou les fêtes de Noël, un petit peu.
Oui, ou les raclettes.
Ça va venir, ça va venir.
Et justement, José, tu nous conseilles quoi, toi, des diététiciens, oui, pour éliminer ces petites toxines?
Alors, le diététicien qui conseille en moi vous dira déjà tout naturellement de vous hydrater. Avec de l'eau du robinet, mais aussi avec de l'eau minérale, afin de refaire le stock de minéraux.
Voilà, je fais une démonstration en même temps.
Exactement, c'est bon, tout le monde voit.
Ouais. Mais il y a des minéraux aussi dans l'eau du robinet.
Oui, c'est ça. Oui. Mais l'eau minérale...
C'est mieux encore.
C'est encore mieux.
D'accord.
D'accord, parce qu'elle est plus naturelle. Et il y a aussi certains aliments, de par leur composition nutritionnelle, sont naturellement diurétiques ou riches en minéraux comme... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui savent quels aliments favorisent la détox, en gros?
Le citron.
Ah oui, le matin.
La
ouais.
pomme.
Ouais.
La pomme, ça nettoie les dents aussi.
Le raisin.
Le raisin, on disait aussi.
Le concombre. Ouais.
Les pruneaux.
Oui, ça permet d'éliminer, oui.
Les carottes.
Oui.
Les frites.
Ah oui, alors ça, je suis pas sûr par contre là.
Les faillots.
Il y a des petits marrons.
Non plus.
Oui.
Alors, oui, vous avez raison pour beaucoup. On a le jus de bouleau. Vous connaissez le jus de bouleau?
Alors, Gilles Boulot, le présentateur,
ouais. J'avais le même. Gilles Boulot aussi, ouais.
Donc, c'est la sève de boulot au Moyen-Âge. Les apothicaires, justement, utilisaient ou le prescrivaient pour des calculs rénaux. Les apothicaires qui étaient les ancêtres des...
pharmaciens.
Bravo.
Exactement. On fait un peu de concurrence à l'Anjou Bleu, mais je crois qu'à Beaugé, ils ont une belle apothicairie.
Elle est très, très belle.
Qu'on peut visiter.
Ouais. Juste pour faire un petit point, en fruits, vous avez parlé de pamplemousse?
Non, on avait fait citron, ouais.
Si, voilà, tout ce qui est acide. Pamplemousse, l'ananas.
La pomme, la poire et le kiwi. C'est marqué sur ta feuille,
voilà.
Je crois.
Ça, c'est juste pour vous. Et en légumes, on a le poireau.
Oh, super.
Le chou, l'avocat. L'avocat, beaucoup, beaucoup utilisé. L'ail, la betterave, le carotte, le céleri, l'oignon. Et alors, attention, le topinambour aussi.
Ah, qui revient.
Oui, c'est un tambour.
C'est ancien, ouais.
Tu topines sur le tambour.
Ouais, tu sors.
Bon, José, comme tu es sur les réseaux sociaux et que tu publies souvent des recettes qui donnent envie, t'as pas des petites idées là pour mélanger justement ces topinambours et la betterave par exemple?
Alors.
Oh, la relance. C'est comme
ça. Oh la relance.
Parfait. Hey. Alors, okay. Alors par exemple en entrée, vous prenez des betteraves que vous râpez. Vous lamellez de l'avocat avec une petite sauce au persil au pamplemousse que vous pressez avec un petit filet d'huile d'olive. Ça, et après vous m'en direz.
C'est bien bon.
En plat, on peut faire sauter de poireaux, carottes, oignons avec un petit blanc de poulet et une crème au sarrasin. Petite crème au sarrasin, vous avez déjà entendu parler?
Oui.
Du sarrasin, vous l'écrasez, une petite crème, on fait chauffer. Oh. À tomber par.
Il n'a rien ramené de tout ça, moi, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte.
Mais non, mais c'est parce qu'il est 19h, il nous invite à manger.
Ah, ensuite, d'accord, ok. Bon, d'accord, ok. Là.
Et en dessert, avec tous ces fruits, qu'est-ce qu'on peut faire?
Du chou.
Une salade de fruits.
Une salade de fruits avec un peu de pamplemousse, pomme, poire, ananas. Kiwi, un petit zeste de citron par-dessus.
Ah oui, la totale, tu les mets tous.
Pour ceux qui veulent, on peut aussi mettre quelques petites graines de courge.
Parfait. Ah bah, prenez un ticket pour les toilettes, hein, parce que là, si tout le monde prend ça à chaque fois, ça va être compliqué. Hein.
Eh ben...
C'est fini?
C'est terminé.
C'est fini, tu nous laisses avec cet appétit là, tout comme ça. Là. C'est dommage que je ne sache pas cuisiner, sinon j'aurais sauté sur tous ces ingrédients pour préparer une bonne petite salade de fruits détox. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'être venu pour la première de Topette. Merci à Réjeanne, Pico, merci à Céline
Idier,
comme ça, I-D-I-E-R, d'être passé. Donc vous travaillez à l'office de tourisme de l'Anjou Bleu avec Camille qui est juste à côté. Merci beaucoup Jean-Christophe Garnier également, propriétaire du château du Paty à Maran. C'est drôle. Non, de ouf. Ouais. Ok, on va.
Ça y est, t'es déjà pâti, toi. Hein.
Ouais, je suis déjà pâti. Je suis pâti trop loin.
C'est ça.
Bah, merci Bruno pour ta présence également.
Eh bah, écoute, longue vie à Topette. Hein.
Voilà, donc il est là toute la semaine pour honorer.
Si,
là, toute la semaine pour honorer le début de cette émission. Merci à José qui nous a tous donné faim.
Ouais.
Donc,
désolé.
Voilà.
Ouais, puis, c'est que des bonnes choses.
Et surtout, bonjour à Seb qui va prendre l'animation de la case de Seb.
La case de sa case.
Voilà. Donc, c'est dans quelques instants sur Radio G. Allez, Topette!
Sur le 101.5 de Radio G, ça fait plaisir de vous retrouver dans ce studio au programme de ce soir. Des ours, de l'écologie, la fin du monde, une interview, des surprises et beaucoup plus. Attention, générique. Si ça veut bien partir.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Eh bien, tout ce que vous allez voir, je ne sais plus parler et entendre sur le 101.5 de Radio G. Je suis vraiment encore super content de vous accueillir en cette émission, cette première émission de la saison 2021-2022, le 13 septembre 2021. C'est un peu logique. On va se retrouver tous les 15 jours pour votre dose de bande dessinée de 9e art. Comme d'habitude, par le truchement des ondes radiophoniques, on va vous propulser directement dans le cerveau, les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pour une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. J'espère que vous êtes des habitués, c'est cool. Si vous êtes des nouveaux, c'est cool aussi. N'hésitez pas à nous retrouver sur le 101.5 de Radio G et sur le podcast n'importe quand, sur radio-g.fr. Alors, je vous disais qu'on allait commencer avec des ours. Eh ben, ça va être encore comme d'habitude. C'est une première, je suis essoufflé parce que j'aime pas le masque. Mais bon, ça c'est un problème. On va commencer avec... j'ai presque que des coups de cœur, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu le temps de lire pas mal cet été. J'ai eu beaucoup de... Il faisait super beau, donc on est resté un petit peu à la maison. Et on va commencer à parler d'ours avec Cody de Jared Cullum, publié aux éditions Comics Initiative. À mon avis, c'est certainement pas comme ça qu'on prononce Jared Cullum, mais c'est pas très très grave. L'histoire, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Katia, qui vit les vacances chez sa grand-mère en Alaska, ou tout à côté. Et c'est un petit peu une gamine qui n'aime pas les gens. Elle préfère passer plus de temps à lire des comics dans sa chambre que de sortir trouver des copains et des copines. Et du coup, elle a très peu de copains. Sa grand-mère lui dit, écoute, sors, va te faire des copains. Et elle va tomber sur un gigantesque ours, un ours Kodiak. Alors, je veux dire que je ne connaissais pas les ours Kodiak. Vous pouvez regarder les statistiques un petit peu de ce type d'ours sur Wikipédia ou dans une encyclopédie. Ça reste des beaux bébés. Et elle tombe sur cet ours qui est blessé, affamé, coincé derrière une branche. Et elle décide de l'aider. Elle décide de tout faire pour pouvoir aider cet ours à sortir de cette branche. Donc elle va se faire aider par sa grand-mère. Et puis, contre toute attente, cet ours va se lier d'amitié avec la jeune Katia. Une amitié entre un enfant et un ours, c'est pas une amitié, on va dire, un peu banale. Mais l'été touchant à sa fin, Katia doit retourner dans la grande ville avec sa maman. Et pour le grand drame, l'ours Kodiak va tout faire pour retrouver sa copine qui est partie loin de lui. C'est un super bouquin, déjà parce que c'est super mignon, c'est une histoire hyper touchante d'une amitié un petit peu hors norme, parce que ça parle de plein de personnages. C'est des personnages qui sont un peu des parias, que ce soit à cause de certaines petites choses, des petits handicaps, ou simplement parce que ils préfèrent passer du temps à lire des bouquins que de rencontrer des